Vous avez vu ce matin, il y a cette barrière métallique qui fait tout le tour du Capitole. Elle n'était pas là mercredi. Et si aujourd'hui vous n'avez pas ce pass autour du cou, la carte de presse officielle du Sénat, bah, on peut plus s'approcher. Le déploiement de sécurité autour du Congrès des États-Unis ici à Washington est maintenant très très impressionnant. Alors voilà. C'est évidemment ici qu'on a choisi d'enregistrer cet épisode de Washington DC. Nous sommes du côté de la façade est du Capitole. On est vendredi matin, un peu moins de 48 heures après ces événements auxquels le monde entier a assisté en direct. Cet assaut lancé contre le bâtiment le plus connu de Washington et sans doute le plus emblématique de la démocratie américaine.
Tout juste à côté de nous, il y a des policiers du Capitole. Et il y a aussi, maintenant, ce qu'on n'avait pas vu initialement mercredi, des membres de la Garde nationale qui sont un peu partout autour de cet immense périmètre de sécurité.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de manifestants. La plupart ont repris leur avion hier soir. Mais par contre, il y a encore beaucoup de journalistes du monde entier qui sont aux quatre coins du Congrès.
J'ai quand même vu passer quelqu'un avec un drapeau américain sur lequel il était écrit RIP, Rest in Peace, repose en paix, en hommage à la démocratie américaine.
Oui, puis moi, au lendemain des émeutes, j'ai été à l'intérieur du Congrès. Il y avait encore du verre brisé au sol, même des mégots, de la poudre blanche, hein, vestige des gaz tirés par les policiers, les couloirs quasiment déserts, et des experts hein, qui inspectaient les statues en quête d'éventuels dommages sur ce patrimoine fédéral.
Alors tous ensemble, on va revenir sur ce qui s'est passé ici mercredi après-midi. On va vous raconter ce qu'on a vu, essayer aussi de comprendre et d'analyser les conséquences politiques de cette séquence incroyable, hallucinante, qui nous a sidérés. Hein. C'est vrai qu'on a eu du mal parfois à trouver les mots pour décrire ça. Pour en parler avec moi, il y a
Raphaël Grand, de la Radio-Télévision Suisse.
Anne Corpet, RFI.
Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada.
Sonia Dridi, RTBF.
Grégory Phillips, de France Info. L'attaque du Capitole, c'est l'épisode 32 de Washington DC. Bonjour.
Our democracy is under unprecedented assault. This is not dissent, it's disorder. It's chaos.
We had an election that was stolen from us. And everyone knows it, but you have to go home now.
Washington, D.C.
This is not an ordinary election.
Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va tenter de refaire le film de ce qui s'est produit ici. On va prendre les choses dans l'ordre. Mercredi, fin de matinée, tout près d'ici, hein, sur le mall à quoi? Moins d'un kilomètre, 800 mètres peut-être à peu près, il y a Donald Trump qui organise un meeting réunissant plusieurs milliers de ses partisans. La marche a été baptisée Save America, sauver l'Amérique. Les deux, Raphaël, vous êtes sur place à ce meeting.
Ouais, et c'était assez impressionnant d'ailleurs de voir le nombre de partisans du président qui avait répondu à son invitation, qui était au pied du monument de Washington. Tous les gens à qui on parle, je suppose que c'est le cas pour vous, sont convaincus qu'il y a eu fraude électorale, ouais, comme le clame le président, et ce, malgré des dizaines de revers en justice. Et beaucoup de gens aussi, comme cette citoyenne américaine qui est aussi canadienne que j'ai rencontrée, mettent la pression sur le vice-président Mike Pence, qui doit plus tard dans la journée authentifier la victoire de Joe Biden.
Absolument. Absolument, Trump qui a gagné l'élection. Ça se peut qu'aujourd'hui, ça ne sera pas finalisé, mais c'est sûr que Trump a gagné l'élection. Mike Pence n'est pas sur le côté des républicains, tu sais, de la liberté pour le peuple.
Donc beaucoup de monde depuis le matin, les gens arrivent et affluent comme ça devant la Maison Blanche. Il y a des drapeaux, vraiment une foule très impressionnante, Raphaël. Hein.
Oui, des gens qui sont venus entendre les plus fidèles des adjoints, des collaborateurs de Donald Trump, parmi eux évidemment Rudy Giuliani, son avocat personnel, qui a appelé à un duel judiciaire, combat by trial, le fils de Donald Trump, Don Jr., et le président Trump lui-même, qui a appelé ses partisans à marcher vers le Capitole.
We're going to walk down anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol.
Et là, on voit vraiment la foule de partisans de Donald Trump qui partent de la Maison Blanche en direction du Congrès. Il y a plein de monde. En ce moment, je suis en train de faire des directs radio. J'ai des problèmes de réseau. Il y a tellement de monde autour de nous. Et cette foule immense qui prend d'assaut comme ça, gentiment, en marchant, mais qui se rapproche du Congrès, du Capitole américain.
Et d'ailleurs, Raphaël, c'était un peu comme dans les matchs de basket ou de football américain. C'est-à-dire que ces gens n'ont même pas attendu la fin du discours de Trump pour commencer à marcher vers le Capitole. Et moi aussi, j'ai commencé à marcher avec eux en me disant, C'est quand même impressionnant. Il y a d'un seul coup des milliers de personnes qui quittent le meeting et qui prennent la direction du Capitole un peu plus loin.
Et au même moment, à l'intérieur du Congrès, les élus sont rassemblés en session plénière. La certification du vote des grands électeurs commence. Ted Cruz, le sénateur républicain du Texas, émet sa première objection sur l'Arizona. Et les élus se retirent dans leurs chambres respectives pour commencer à débattre.
Là, on est en tout début d'après-midi. Il est 13h et quelques. Et les esprits commencent à s'échauffer devant le Capitole.
Ouais, et là, moi, je me trouve juste devant le Capitole. Dans la foule, devant les marches qui mènent à l'entrée de ce bâtiment, les barrières cèdent, la police commence à reculer, et là, les premiers partisans de Trump entrent dans le bâtiment.
Comme vous, moi, je me trouve en bas de ces marches. Je vois des gens gravir à main nue le mur d'enceinte du Congrès. C'est quand même une scène totalement folle,
surréaliste.
Et à côté de moi, il y a cet homme qui s'appelle Ron et qui est littéralement extatique.
This is beautiful. This is what needs to be done. It's the only way of getting it done. We need to be heard.
C'est très beau, dit Ron. C'est la seule chose qu'on pouvait faire. On doit être entendu. On est là. On est en colère. Il faut que ces gens partent. Tout le monde doit partir. Les médias, les Soros, les Bill Gates, on en a assez. On est prêt à la guerre. Et non, Biden n'est pas mon président. Alors je voudrais que chacun vous me racontiez, vous, comment vous avez vécu et comment vous avez raconté ce qui se passait sur vos radios respectives. On commence avec toi, Sonia. Alors à ce moment-là, t'es pas à Washington, t'es à l'autre bout du pays, en Californie. Mais évidemment, t'as pas mal de contacts avec les gens qui travaillent à l'intérieur, au Congrès, dans le Capitole, des staffeurs, comme on dit ici. Ouais. Qu'est-ce qu'ils te racontent ?
Oui, alors c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis scotchée devant mon écran télé et très vite, je saute dans un avion. Sur le chemin, j'appelle notamment une assistante parlementaire qui me dit être complètement estomaquée hein, parce ce qui est en train de se passer. Elle me dit jamais on aurait imaginé qu'ils auraient pu briser les barrières et entrer au Congrès. Jamais on aurait imaginé qu'ils allaient même pouvoir entrer à l'intérieur de l'hémicycle du Sénat. Elle me dit sur le moment être très frustrée, ne pas comprendre comment cela est en train d'arriver. Elle est étonnée du manque de sécurité. En même temps, elle est dans un bureau assez bien protégé. Elle préfère rester anonyme, mais elle travaille pour un sénateur démocrate bien connu. D'ailleurs, un bureau dans lequel je vous avais amené pour
c'est vrai.
Oui, avec une vue magnifique.
C'était pas mal. Ouais.
Voilà, et difficile d'accès. Et j'ai aussi été étonnée par son sang-froid. En fait, elle me dit il faut qu'on termine aujourd'hui la session. Et donc, elle est restée jusqu'à 4h du matin. Elle est retournée au Congrès une fois que la session a repris pour certifier la victoire de Joe Biden.
Quand tu échanges avec ces gens qui travaillent au Congrès et qui voient ça, est-ce que tu sens qu'ils ont peur ?
Oui, je sens qu'ils ont peur. D'ailleurs, ils m'ont raconté, on a vu ensuite sur des images, des photos, qu'il y avait des gens qui se sont cachés sous les bureaux, dans l'hémicycle du Sénat, sous les chaises. Enfin, c'était vraiment très impressionnant. Et certains disent avoir cru mourir. Certains ont même appelé leur famille, leurs proches pour dire au revoir. Donc, c'est quand même assez extraordinaire.
Toi, Anne, tu travailles évidemment pour Radio France Internationale. Comment est-ce que tu vois et comment est-ce que tu traites ces événements à l'antenne ?
Bon, alors moi, je reste au bureau. Hein. C'est Eric Desalves qui arrive sur le terrain, qui rencontre d'ailleurs les mêmes problèmes que vous de transmission. Du coup, j'enchaîne les directs. Et c'est un peu frustrant, bien sûr, de pas être sur le terrain. Mais en même temps, ça donne la possibilité d'être partout à la fois, en zappant sur les chaînes de télévision. Et je vois ces images, mais insensées. Hein. Ces agents de sécurité, bras tendus, armes au poing, qui défendent l'entrée de l'hémicycle au Sénat. Ces élus dont tu parlais, allongés sur le sol, ou encore ce partisan de Donald Trump, les pieds sur le bureau de Pelosi, ces militants juchés sur le piédestal de statue dans une salle où d'ordinaire un policier du Capitole vous interpelle quand vous parlez un peu fort, comme tout le monde à Washington, j'étais sidérée.
Moi, j'étais parti pour couvrir un meeting de Trump devant la Maison Blanche. Tout s'est accéléré quand les gens sont arrivés et ont commencé à prendre d'assaut le Capitole. J'ai fait du son, beaucoup de son, quand les gens sont entrés, pour des reportages radio. J'ai même fait aussi un direct pour le JT de la RTBF. Ils cherchaient une certaine Sonia, sans doute, qui était dans un avion. Et ensuite, nous aussi, on est passé en émission spéciale un peu plus tard, Breaking News, et je suis rentré du côté de mon bureau, un peu plus au nord de la ville, et on entendait les sirènes, les convois de police qui traversaient Washington un peu partout.
Raphaël, toi ?
Alors, Après l'événement de Donald Trump, je suis retourné à notre bureau qui est à côté de la Maison-Blanche. J'ai vu ces images, donc évidemment, de l'intrusion sur les écrans. Et je suis venu à peu près 2 heures après le début de tout ce qui s'est passé au Capitole. Et ce qui m'a marqué, c'est que les partisans de Donald Trump étaient encore vraiment jusque aux portes de l'édifice. Les gens allaient et venaient sans aucune embrouille, sans aucun problème. On voyait très peu de membres des forces de l'ordre, alors qu'on aurait pu penser que les policiers et les gens de la garde nationale auraient pu intervenir beaucoup plus tôt quand même.
Juste pour vous donner un peu les coulisses de la manière dont on travaille en radio, on travaille de manière extrêmement légère avec un téléphone portable à l'oreille, ce qui nous permet de faire des directs aussi dans ces situations, alors que nos collègues des télévisions ont des caméras, des pieds de caméra, et à un moment donné, en fin d'après-midi, on a vu des partisans de Trump débouler sur nos confrères et casser littéralement toutes les caméras. Ça a été assez violent, ça a duré quelques secondes, mais c'était quand même assez impressionnant.
Il faut dire que Donald Trump, dans son discours, s'en est très vivement pris aux médias. Il les a accusés d'être les premiers responsables du vol de l'élection.
Oui, et depuis longtemps, il qualifie les médias d'ennemis du peuple.
Finalement, ça a duré ce chaos combien de temps à peu près ?
Alors, je crois que ça a duré environ 4 heures. Ensuite, il y a eu l'annonce d'un couvre-feu qui a été instauré à partir de 18 heures. Et d'ailleurs, il y a l'état d'urgence qui a aussi été annoncé et toujours en place jusqu'à l'investiture de Joe Biden, ce qui permet, si besoin, de rapidement pouvoir annoncer de nouveau un couvre-feu.
L'évacuation du Capitole s'est achevée aussi juste après la diffusion d'une vidéo de Donald Trump qui, très tardivement, a demandé à ses partisans de quitter le bâtiment.
But you have to go home now.
Mais la journée s'est quand même soldée par un lourd bilan.
Oui, on parle d'au moins 5 morts.
Il y a eu cette manifestante qui a été blessée et qui est décédée à la suite de ses blessures. Une ancienne combattante d'Irak et d'Afghanistan, adepte de thèses conspirationnistes de QAnon.
Et qui est venue exprès de Californie pour manifester. Il y a aussi ce policier dont on a appris la mort et qui, lui, aurait été frappé, selon les médias américains, par un émeutier avec un extincteur.
Et cette journée de chaos et ce bilan humain est évidemment en contradiction totale avec le discours d'un président qui ne cesse de répéter qu'il est le président de la loi et de l'ordre.
Washington, D.C.
Nous sommes toujours face à ce Capitole, tous les 5, devant cette façade est et ce dôme blanc immaculé, symbole de Washington et aussi symbole de la démocratie américaine. Ensemble, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé ici mercredi. Je voudrais qu'on parle du profil de celles et de ceux qui, il y a moins de 48 heures, pénétraient dans ce bâtiment. Qui peut me décrire un peu qui sont ces gens-là ?
C'était la base fidèle des supporters de Donald Trump, la base dure. Ce qui m'a impressionné, c'est que c'était des gens qui sont sans doute pas rendus compte, pour certains, de ce qu'ils étaient en train de faire, de commettre des actes illégaux, de commettre ce que certains appellent aujourd'hui du terrorisme intérieur.
Oui, moi je vais un peu dans ton sens, Raphaël, parce que je trouve qu'on a souvent tendance à caricaturer un peu les partisans de Donald Trump. On l'a vu ces dernières semaines, il y a eu plusieurs rassemblements pour dénoncer les fraudes à l'élection, avec des pro-Trump venus de tout le pays, et on voit souvent des familles, il y a parfois une ambiance presque bon enfant, et je trouve quand même qu'on trouve dans cette foule des gens qui sont pas extrêmes, qu'on voit peut-être moins dans les médias.
N'empêche, moi, ce que j'ai remarqué dans les discours depuis un moment, c'est que beaucoup de partisans du président nous disent on a des moyens pour s'assurer que Joe Biden ne sera pas président. Souviens-toi, Anne, quand on était en Géorgie devant la législature à Atlanta, c'est un discours qu'on attendait. Il y a moyen de bloquer la présidence de Joe Biden. Quand on demandait à ces gens-là de quoi s'agit-il, on n'avait pas de réponse claire. On a eu un exemple clairement de la part de certains, en tout cas cette semaine.
Ce qui m'a frappé, moi, dans cette manifestation, puis dans les événements qui se sont produits après au Capitole, c'est que tous ces gens-là sont intimement convaincu que l'élection a été volée. Ça, ils vous le disent tous, et pourquoi ça fait 2 mois que Trump leur répète ça jour après jour, et ça, il a réussi à leur imprimer ça dans le cerveau, même si tous les tribunaux du pays ont rejeté les recours, ils sont tous persuadés que l'élection a été volée, ce qui explique en partie la colère qui s'est exprimée ce jour-là.
Oui, et même au lendemain de la certification, moi j'ai rencontré des partisans du président et une femme, elle avait quasiment encore les larmes aux yeux, quoi. Elle était persuadée toujours que on lui avait volé son président.
Et puis dans cette foule, il faut le dire aussi, il y a je sais pas trop comment les qualifier, mais des hommes beaucoup vêtus en tenue paramilitaire, visiblement qui sont là pour en découdre.
Oui, des milices. Alors il faut quand même le préciser, les armes sont interdites à Washington D.C., donc ces gens n'étaient pas armés. Ça aurait pu être différent dans une autre ville des États-Unis, mais j'ai croisé par exemple John qui venait de Pittsburgh en Pennsylvanie.
I feel like there's enough patriots right now in this country who will.
John, qui était clairement prêt à se battre, hein, il dit qu'il y a assez de patriotes dans le pays pour faire face. On ne peut pas accepter ça. Joe Biden, Kamala, qui prennent des décisions pour nous. Il m'explique bien que des millions d'Américains ont des armes et le temps de la contestation pacifique est terminé.
Et pour ce qui est des gens qui sont entrés à l'intérieur du Capitole, vous savez que le FBI est à la recherche de ces individus, mais il y en a certains, à tout le moins, qui ont été identifiés par les médias parce que, bon, on a vu les images, les gens se sont filmés, donc on a vu, par exemple, des activistes pour le droit des armes, des adeptes des théories du complot comme QAnon également, que les médias ont identifiés, qui sont maintenant recherchés par les autorités.
On parlait il y a peu des gens dits ordinaires. Moi, j'ai croisé au lendemain donc de ces événements Adrienne, une femme de 45 ans, métisse, venue exprès de Seattle sur la côte ouest pour manifester. Elle était aussi très étonnée de la façon dont les pro-Trump sont présentés. Et elle, comme beaucoup, eh bien, elle ressort c'est une théorie du complot qui assure que ce ne sont pas des pro-Trump qui ont envahi le Capitole.
Dressed up like Trump supporters and went in there and caused a ruckus. And but literally, we've been called domestic terrorists.
Voilà, elle me dit, les gens qui étaient des patriotes comme nous sont restés en retrait. D'après nos sources d'information et non pas des médias libéraux, eh bien, ce sont les antifas qui se sont habillés comme des partisans de Donald Trump pour créer le chaos. On nous appelle terroristes domestiques, mais je ne comprends pas ce qu'il y a de mal à manifester pacifiquement. C'était magnifique, ce rassemblement magnifique.
Oui, moi, j'ai rencontré aussi Matthew. Il était venu de Chicago. Alors, il n'est pas rentré dans le Capitole, mais il a réussi à se hisser sur une terrasse du Congrès. Lui aussi m'a parlé de ces antifas déguisés en partisans de Donald Trump et il m'a expliqué.
That's what Antifa and those organizations do, that stuff. The Trump people, we don't do that stuff. That's just how it is.
Nous, on n'est pas des émeutiers, on ne fait pas ce genre de choses. Ce sont les antifas. Ils nous ont infiltrés pour donner une mauvaise image de nous, dit-il. Ils savaient qu'on allait venir le 6 janvier.
Et il n'y a pas que dans les rues que ces théories-là sont véhiculées. On a entendu des élus au Congrès, notamment Matt Gaetz de la Floride, parler aussi de cette infiltration non confirmée, doit-on le rappeler, non prouvée, d'Antifa dans les rangs des gens qui sont entrés dans le Capitole.
Un discours qui a aussi été repris sur les chaînes de télévision conservatrices, Fox News et ses chaînes beaucoup plus à droite, OAN, dont on vous a déjà parlé dans ce podcast, dans ce balado.
Alors qu'en réalité, on l'a bien vu sur les images, il y avait à l'intérieur du Capitole des gens non pas déguisés, mais parfois tatoué avec des messages clairement fascistes ou néo-nazis.
Il y a quand même quelque chose que, personnellement, j'arrive pas à comprendre, c'est comment une foule, même nombreuse, même très énervée, même très remontée, peut comme ça pénétrer aussi facilement à l'intérieur du bâtiment le plus important et le plus symbolique de la capitale fédérale américaine.
Bah, c'est une police du Capitole pas préparée, qui n'avait sans doute pas anticipé ces débordements. Une police qui tarde à appeler du renfort. Le chef de la police du Capitole a d'ailleurs démissionné. Et à sa décharge quand même, il y a une multiplication de juridictions ici, hein, à Washington. Il y a la ville, il y a les États voisins, il y a le niveau fédéral. C'est très compliqué pour les autorités. La maire de la ville de Washington, Muriel Bowser, a insisté sur le fait qu'elle n'avait même pas l'autorité pour envoyer l'armée ou la police de sa ville, car le Congrès, eh bien, c'est un bâtiment fédéral.
We must also understand why the federal law enforcement response was much stronger at the protest over the summer than during yesterday's attack on Congress.
La maire de Washington DC, la mairesse pour les Québécois, Muriel Bowser, qui s'étonne aussi du déploiement policier important lors de manifestations comme Black Lives Matter et du peu de sécurité quand il s'agit de partisans de Donald Trump qui prennent d'assaut le Congrès.
Et cette comparaison avec le dispositif déployé pendant Black Lives Matter a été évoqué par Joe Biden, par Michelle Obama, par de nombreux élus qui ont dit bah, si ça avait été des Noirs, en gros, ils auraient été réprimés beaucoup plus brutalement. Et c'est ce que m'a dit aussi Kaya, une étudiante de Washington que j'ai rencontrée au lendemain des émeutes devant le Congrès.
I mean, it was really shocking how easy it was for them to get in. Never would have expected that.
Et elle dit, bah, moi, j'ai été très choquée de voir avec quelle facilité ces manifestants sont entrés dans le Capitole. Surtout, dit-elle, quand on compare avec ce qui s'est passé pendant ces manifestations de Black Lives Matter.
Oui, d'ailleurs, on a tous en tête l'image de ces centaines de membres de la garde nationale qui étaient déployés devant le Lincoln Memorial. Et des membres de Black Lives Matter ont fait une déclaration pour dénoncer l'hypocrisie aux États-Unis des forces de l'ordre dans leur réponse aux différentes manifestations.
Oui, d'ailleurs, la ville de Washington, le district de Columbia, s'est plaint de la lenteur de la réponse, de la collaboration des autorités fédérales. Une première demande d'intervention de la garde nationale a été refusée avant de finalement être acceptée.
Bref, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il y a eu un énorme dysfonctionnement de sécurité ce jour-là. D'ailleurs, là maintenant, le Capitole est extrêmement protégé avec la barrière métallique et les soldats qu'on évoquait tout à l'heure. Ce Capitole si tranquille ce matin, nous sommes le vendredi 8 janvier 2021. Dans 12 jours, Joe Biden deviendra officiellement le 46e président des États-Unis, mais la séquence qu'on vient de vivre ensemble restera sans doute comme l'une des plus marquante de la présidence Trump. Faut évidemment qu'on parle des conséquences politiques de ces événements. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Trump a une part de responsabilité dans ce qui vient de se dérouler ?
Ah bah clairement, il a envoyé ses partisans au Congrès, il leur a dit « battez-vous,
soyez forts ».
Et ce que reprochent beaucoup d'élus à Donald Trump aussi, c'est d'avoir entretenu ces allégations selon lesquelles il y a eu fraude électorale et selon lesquelles Mike Pence avait le pouvoir de renverser la certification des résultats, alors que dans les faits, il n'en avait pas du tout le pouvoir.
Et au lendemain des émeutes, Trump il a carrément changé de ton dans cette vidéo sur Twitter, où pour la première fois, il a évoqué le scrutin sans parler de vol, sans parler de fraude massive. Une forme de concession finalement, puisqu'il reconnaît qu'une nouvelle administration va prendre le pouvoir le 20 janvier. Et puis, il a fermement condamné les violences sur lesquelles il ne s'était pas exprimé la veille.
Alors pourquoi ce changement de ton ? C'est parce que Donald Trump est de plus en plus isolé au sein même de son parti et il est sous pression. Il y a notamment plusieurs démissions au sein de la Maison-Blanche, des conseillers mais aussi au moins deux ministres, la secrétaire d'État aux transports et la ministre de l'Éducation. Donc il veut stopper en quelque sorte l'hémorragie.
Dire également que les élus du Congrès ont clairement changé d'attitude depuis ces heures. Lorsqu'ils sont retournés au Capitole pour confirmer Joe Biden, le plus symbolique peut-être c'est Lindsey Graham, vous savez le sénateur de Caroline du Sud, ce fidèle de Donald Trump qui va souvent d'ailleurs faire
partenaire
du golf, voilà, avec le président.
Enough is enough. Joe Biden and Kamala Harris.
Trop, c'est trop. Ne comptez plus sur moi. Maintenant, il faut reconnaître Joe Biden comme président. Et quand Lindsey Graham abandonne Trump, ça en dit aussi beaucoup sur l'isolement politique de Donald Trump.
Et puis un mot sur Mike Pence qui a finalement certifié ses résultats.
Oui, Mike Pence qui est revenu au Sénat pour terminer cette procédure et confirmer la victoire de Joe Biden. D'ailleurs, Mike Pence avait dit avant même tous ces événements qui se sont déroulés au Capitole qu'il n'allait pas faire ce que Donald Trump lui demandait, c'est-à-dire renverser le résultat d'une élection démocratique.
Que peut-il se passer maintenant ? C'est une vraie question aussi.
Beaucoup de choses.
Beaucoup de choses sans doute. On a entendu pour la première fois un élu républicain, un représentant de l'Illinois, il s'appelle Adam Kinzinger, évoquer l'idée d'un recours au 25e amendement de la Constitution pour déclarer le président inapte.
It is for this reason that I call for the vice president and members of the cabinet to ensure the next few weeks are safe for the American people.
Et Kinzinger dit tout indique que le président a perdu sa connexion avec ses devoirs mais aussi avec la réalité. C'est pour ça que je demande au vice-président et au cabinet de s'assurer que les Américains seront en sécurité dans les prochaines semaines. À la barre du navire, nous avons besoin d'un capitaine sain d'esprit.
Oui, et selon plusieurs sources proches de la Maison-Blanche, Mike Pence, le vice-président, est furieux. Il a été vraiment maltraité par Donald Trump ces derniers jours, mais il n'aurait pas l'intention d'invoquer ce 25e amendement car il ne veut pas créer plus de divisions et de tensions.
Et ce qui se discute en ce moment même à l'intérieur des murs du Capitole, ce serait peut-être de repartir sur une nouvelle procédure d'impeachment. Les élus démocrates en sont en train de discuter pour, à moins de deux semaines de la fin du mandat de Donald Trump, relancer une telle procédure.
Ce serait une humiliation suprême pour Donald Trump. Ce serait le premier président des États-Unis à subir deux fois de suite une procédure de destitution.
La première fois, c'était il y a un an, pile.
Il y a plusieurs élus républicains qui, semble-t-il, seraient désormais prêts à voter sa destitution. On n'aura pas besoin d'un procès rapide. On était aux premières loges, aurait dit l'un d'entre eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la procédure peut se poursuivre au-delà du 20 janvier.
Mais pour bien comprendre, à quoi ça servirait en fait ?
Au-delà du symbole, donc un président accusé par la Chambre deux fois, si ce processus de destitution va jusqu'au bout avec une condamnation par le Sénat, eh bien ça ferait en sorte que Donald Trump ne pourrait plus se présenter à une élection présidentielle, comme il l'espère, peut-être, on ne sait pas, le faire en 2024.
En tout cas, l'image de ce président milliardaire restera écornée par ce qui vient de se passer, par les événements de ces derniers jours. J'ai envie de dire aussi presque l'image de la démocratie américaine.
Ah oui, et d'ailleurs sur RFI, il y a eu beaucoup d'auditeurs africains qui l'ont souligné. Les États-Unis vont avoir du mal à faire la leçon désormais en matière de respect des normes démocratiques. Et ici à Washington, où la population vote à majorité démocrate, eh ben le sentiment de honte que l'on percevait à chaque nouvelle transgression du président a atteint là des sommets. Ces images ont été difficiles à supporter pour beaucoup d'Américains qui sont tous très fiers de leur pays et souvent convaincus que c'est la plus grande, la plus belle démocratie au monde. Écoutez par exemple ce que me disait Megan, une étudiante que j'ai rencontrée à quelques pas d'ici.
I was definitely shocked and it was just embarrassing to think that this could happen in a country like this.
Megan dit, c'est embarrassant de penser que ceci peut arriver dans notre pays, c'est troublant. Et elle ajoute, je vois pas comment notre pays pourra être perçu de manière légitime après cela.
Très rapidement, comment ça a été perçu dans vos pays respectifs? En France, par exemple, Emmanuel Macron a très vite diffusé ce message vidéo.
Quand dans une des plus vieilles démocraties du monde, des partisans d'un président sortant remettent en cause par les armes les résultats légitimes d'une élection. C'est une idée universelle, celle d'un homme, une voix, qui est battu en brèche.
Au Canada, Raphaël.
Alors, Justin Trudeau a écrit que les Canadiens étaient perturbés, attristés par l'attaque contre la démocratie survenue évidemment chez notre voisin. Et on peut penser qu'il y a eu nervosité au sein du personnel diplomatique du Canada mercredi parce que l'ambassade canadienne est située à quelques blocs seulement avec une vue imprenable sur le Capitole.
En Suisse, tweet du président de la Confédération qui s'appelle...
Et il vient de changer.
C'est juste. Guy Parmelin, ouais, on change de président chaque année en Suisse et ça se passe très bien, je vous rassure. Guy Parmelin se dit consterné. La démocratie américaine est un bien précieux pour notre pays, la Suisse et nos concitoyens, parce que nous partageons ces valeurs.
En Belgique.
Alors je sais qu'en Belgique, les autorités du coup se sont posées des questions sur la sécurité de leur propre Parlement.
Voilà, on a essayé de vous décrire au mieux la situation à Washington après cette intrusion au Capitole des États-Unis. Il y a 4 ans, quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, on se doutait que cette présidence serait hors norme, extraordinaire. Elle le sera jusqu'au bout, visiblement, et on verra ce que nous réservent les prochains jours, car je le rappelle, le 20 janvier à midi, Joe Biden deviendra officiellement le nouveau président des États-Unis. Ici, d'ailleurs, la cérémonie va se dérouler de l'autre côté du Capitole, façade ouest, et on sera là, évidemment, pour vous la raconter. À très vite.
Au revoir.
Au revoir.
We deplore the desecration of the United States Capitol building. Let us pray. Amen.
Washington DC avec
Sonia Dridi, RTBF,
Anne Corpet, RFI,
Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada,
Raphaël Grand, Radio-Télévision Suisse,
Grégory Phillips, France Info.
Réalisé par
Alexandre Davoine.